Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Quatrième émission.
Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli.
Sur cette photo en noir et blanc, une grande fille aux cheveux foncés, mi-longs et raides. Visage plein. Les yeux clignant à cause du soleil, se tient de biais. Légèrement déhanchée de manière à faire saillir la courbe de ses cuisses, serrée dans une jupe droite descendant à mi-jambe, tout en les amincissant. En dehors des pommettes et de la forme des seins, plus développée, rien ne rappelle la fille d'il y a 2 ans avec ses lunettes. Elle pose dans une cour ouverte sur la rue, devant une remise basse, à la porte rafistolée comme on en voit à la campagne et dans les faubourgs des villes. En fond, 3 troncs d'arbres plantés sur un haut talus se détachent sur le ciel. Au dos, 1957, Yves Tau.
Elle connaît maintenant le niveau de sa place sociale. Il n'y a chez elle ni frigidaire, ni salle de bain. Les WC sont dans la cour et elle n'est toujours pas allée à Paris. Inférieure à celui de ses copines de classe. Elle espère que celles-ci ne s'en aperçoivent pas, ou le lui pardonnent, dans la mesure où elle est marrante et relaxe. Dit « ma piole » et « j'ai les pétoches ». Toute son énergie se concentre vers « avoir un genre ». Son souci reste ses lunettes de myope, qui lui rapetissent les yeux et lui donnent l'air polar. Quand elle les enlève, elle ne reconnaît personne dans la rue. Dans ses représentations de l'avenir le plus lointain, après le bac, elle se voit, son corps, son allure, sur le modèle des magazines féminins. Mince, les cheveux longs flottant sur les épaules, et ressemblant à Marina Vladi dans La Sorcière. Elle est devenue institutrice quelque part, peut-être à la campagne, avec une voiture à elle, signe suprême d'émancipation. 2 chevaux ou 4 chevaux, libre et indépendante. Sur cette image, s'étend l'ombre de l'homme, l'inconnu, qu'elle rencontrera comme dans « Un jour tu verras » la chanson de Mouloudji, ou s'élançant l'un vers l'autre comme Michel Morgan et Gérard Philippe à la fin des Orgueilleux. Elle est sûre qu'elle doit se garder pour lui, et ressent comme une faute contre le grand amour de connaître déjà le plaisir toute seule. Bien qu'elle ait inscrit dans un carnet les jours où l'on ne risque pas d'être enceinte d'après la méthode Ogino, elle n'est que sentiment. Entre le sexe et l'amour, le divorce est total. Au-delà du bac, sa vie est un escalier à gravir qui se perd dans la brume. Elle ne peut savoir que de cette année 57, elle retiendra le bar du Casino de la Plage, à Fécamp, où un dimanche après-midi, elle a été fascinée par un couple qui dansait seul sur la piste un blues, lent et serré. Elle voit l'Europe coupée en deux par une muraille de fer, à l'ouest du soleil et des couleurs, à l'est l'ombre, le froid, la neige et les chars soviétiques qui franchiront un jour la frontière française, s'installeront à Paris, comme à Budapest. L'Algérie en terre brûlée de soleil et de sang, creusée d'embuscades, autour desquelles voltigent de petits hommes en burnous flottants, image elle-même issue du livre d'histoire de Troisième racontant la conquête de l'Algérie en 1830, illustrée par un tableau, la prise de la Smala d'Abdelkader. Il n'y a rien de tout cela dans le journal intime qu'elle a commencé de tenir, où elle décrit son ennui, son attente de l'amour dans un vocabulaire romanesque et grandiloquent. Elle a noté qu'elle doit disserter sur Polyeucte, mais préfère les romans de Françoise Sagan qui, bien que foncièrement immoraux, ont cependant un accent de vérité.
Les gens faisaient fond de plus belle sur une existence meilleure grâce aux choses. Selon leurs moyens, ils changeaient la cuisinière à charbon pour une gazinière, la table en bois couverte d'une toile cirée pour une en formica, la quatre chevaux pour une dauphine, remplaçaient le rasoir mécanique et le fer à repasser en fonte par leurs équivalents électriques, les ustensiles en métal par les mêmes en plastique. L'objet le plus enviable et le plus cher était la voiture, synonyme de liberté, de maîtrise complète de l'espace, d'une certaine manière du monde. Apprendre à conduire et obtenir le permis, considéré comme une victoire, salué par l'entourage comme la réussite au brevet. Les plages étaient bondées le dimanche, de corps en bikini, offerts au soleil dans l'indifférence au monde. On annonçait la société des loisirs. Avoir ses deux bacs, le premier en fin de première, le second l'année d'après, était le signe incontestable de la supériorité intellectuelle et la certitude d'une future réussite sociale. Pour la plupart des gens, les examens et les concours qu'on passerait par la suite n'avaient pas autant d'importance. Ils trouvaient seulement beau d'aller jusque-là. Sur la musique du pont de la rivière Kouai, on se sentait parti pour le plus bel été de la vie. D'un seul coup, le succès au bac conférait une existence sociale, comme si on n'avait pas démérité d'une confiance que la communauté adulte avait placée en nous. Les parents s'arrangeaient pour faire le tour de la famille et des amis, annoncer la nouvelle glorieuse. Ils s'en trouvaient toujours pour plaisanter.
« Moi aussi j'ai passé le bac, sur la Seine, à Côte-Bec. »
La vraie récompense du bac aurait été de vivre une histoire d'amour ressemblant à Marianne de ma jeunesse. En attendant, on flirtait, retrouvant en cachette celui qui descendait un peu plus bas à chaque rendez-vous et qu'il faudrait quitter bientôt parce qu'on n'allait pas faire l'amour pour la première fois avec un garçon que les copines trouvaient rougeau.
Only you can make all this world seem right.
Dans l'ivresse d'une mixité nouvelle, loin enfin du regard des parents, en blue jean et une gauloise à la main, on sautait les marches deux par deux vers la cave d'où s'échappait la musique de la surboume. Le sentiment d'une jeunesse absolue et précaire à ce moment-là nous submergeait, comme si on allait mourir à la fin des vacances à la manière du film « Elle n'a dansé qu'un seul été ». C'est à cause de cette sensation éperdue qu'on se retrouvait après un slow, sur un lit de camp, ou sur la plage, avec un sexe d'homme jamais vu, sauf en photo et encore, et du sperme dans la bouche, pour avoir refusé d'ouvrir les cuisses, se souvenant in extremis du calendrier Ogino. Un jour blanc se levait, sans signification. Sur les mots qu'on aurait voulu oublier, aussitôt après les avoir entendus, « Prends ma queue, suce-moi », il fallait mettre ceux d'une chanson d'amour. C'était hier ce matin-là, c'était hier et c'est loin déjà. embellir, construire la fiction de la première fois sur le mode sentimental, envelopper de mélancolie le souvenir d'un dépucelage raté. Mais une chose était sûre, il ne serait plus jamais possible de se rappeler comment était le monde avant d'avoir eu un corps nu contre le sien. On flirtait de plus en plus loin, pratiquait ce qui n'était discible nulle part ailleurs que dans les ouvrages médicaux, la fellation, le cunnilingus et parfois la sodomie. Les garçons se moquaient de la capote anglaise et refusaient le coitus interruptus de leur père. On rêvait aux pilules contraceptives qui, on disait, se vendaient en Allemagne. Le samedi, à la file, se mariaient des filles en voile blanc qui accouchaient 6 mois après de prétendus et robustes prématurés. Prise entre la liberté de Bardot, la raillerie des garçons qu'être vierge c'est malsain, les prescriptions des parents et de l'Église, on ne choisissait pas. Personne ne se demandait combien de temps ça durerait, l'interdiction d'avorter et de vivre ensemble sans se marier. Les signes de changement collectif ne sont pas perceptibles dans la particularité des vies, sauf peut-être dans le dégoût et la fatigue qui font penser secrètement « rien ne changera donc jamais » à des milliers d'individus en même temps.
Sur la photo de groupe en noir et blanc insérée à l'intérieur d'un livret gaufré, 26 filles s'étagent sur 3 rangs, dans une cour, sous les feuilles d'un marronnier, devant une façade dont les fenêtres à petits carreaux peuvent aussi bien être celles d'un couvent, d'une école ou d'un hôpital. Toutes vêtues d'une blouse claire qui les fait ressembler à un corps d'infirmière. Au-dessous de la photo, notée à la main, lycée Jeanne d'Arc, Rouen, classe de philosophie 1958-1959. Ne figurent pas les noms des élèves, comme s'il avait été sûr au moment où la photo a été remise par le chef de classe qu'on se les rappellerait tous.
C'est elle au 2e rang, la 3e à partir de la gauche. Aucun signe sur sa figure de l'envahissement de tout son être par le garçon qui l'a défloré à moitié cet été, comme l'atteste le slip taché de sang qu'elle conserve secrètement entre des livres dans un placard. Ni de ses faits et gestes. Marcher dans les rues après les cours en espérant le revoir, rentrer au foyer de jeunes filles et pleurer, rester des heures sur un sujet de dissertation sans le comprendre, se passer sans arrêt « Only you » quand elle retourne chez ses parents, le samedi, se bourrer de pain, de biscuits et de chocolat. Si l'une des grandes questions susceptibles de faire avancer la connaissance de soi est la possibilité ou non de déterminer comment, à chaque âge, chaque année de son existence, on se représente le passé, quelle mémoire prêter à cette fille du 2e rang? Peut-être n'en a-t-elle plus d'autre que celle de l'été d'avant? Mémoire presque sans image, incorporation en elle d'un corps manquant, un corps d'homme. Pour l'avenir, coexistent en elle 2 visées. 1, devenir mince et blonde. 2, être libre, autonome et utile au monde. Se rêvant en Mylène de Mongeau et Simone de Beauvoir.
Même si les soldats du contingent continuaient de partir en Algérie, l'époque était à l'espérance et à la volonté. Au grand dessein sur terre, sur mer et dans le ciel, aux grandes paroles et au grand deuil, Gérard Philippe et Camus. Il y aurait le paquebot France, la caravelle et le Concorde, l'école jusqu'à 16 ans, les maisons de la culture, le marché commun et, un jour ou l'autre, la paix en Algérie. Il y avait le nouveau franc, le Scooby-Doo, les yaourts aromatisés, le lait en berlingot et le transistor. Pour la première fois, on pouvait entendre de la musique n'importe où, sur le sable de la plage à côté de sa tête, dans la rue en marchant. La joie du transistor était d'une espèce inconnue, celle de pouvoir être seul sans l'être, de disposer à sa guise du bruit et de la diversité du monde. et les jeunes arrivaient de plus en plus nombreux. Les maîtres d'école manquaient. Il suffisait d'avoir 18 ans et le bac pour être envoyé dans un cours préparatoire faire lire Rémi et Colette. On nous fournissait de quoi nous amuser, le hula hoop, salut les copains, hache tendre et tête de bois. On avait le droit de rien. Ni voter, ni faire l'amour, ni même donner son avis. Pour avoir le droit à la parole, il fallait d'abord faire ses preuves d'intégration au modèle social dominant. Entrer dans l'enseignement, à la poste ou à la SNCF, chez Michelin, Gillette, dans les assurances. Gagner sa vie. L'avenir n'était qu'une somme d'expériences à reconduire. Service militaire de 24 mois, travail, mariage, enfant. On attendait de nous l'acceptation naturelle de la transmission. Devant ce futur assigné, on avait confusément envie de rester jeune longtemps. Les discours et les institutions étaient en retard sur nos désirs, mais le fossé entre le disciple de la société et notre indicible nous paraissait normal et irrémédiable. Ce n'était pas même quelque chose qu'on pouvait penser, seulement ressentir, chacun, dans son fort intérieur, en regardant à bout de souffle. Les gens étaient habitués à la violence et à la séparation du monde. Est-Ouest, Khrouchtchev le Moujik, Kennedy le jeune premier, Pépone Don Camillo, JEC-UEC, Luma l'Aurore, Franco-Tito, Cato-Coco. Sous le couvercle de la guerre froide à l'extérieur, ils se sentaient tranquilles à l'intérieur. En dehors des discours syndicaux à la violence codifiée, ils ne se plaignaient pas. Ils avaient pris leur parti d'être tenus par l'État, d'écouter Jean Nocher faire la morale à la radio tous les soirs et de ne pas voir les grèves aboutir. Quand ils avaient voté oui au référendum d'octobre, c'était moins la volonté d'élire le président de la République au suffrage universel que le désir secret de garder De Gaulle président à vie, sinon jusqu'à la fin des temps. Nous, on préparait nos certificats de licence en écoutant le transistor. On allait voir Cléo de 5 à 7, l'année dernière à Marienbad, Bergman, Buñuel et le cinéma italien. On aimait Léo Ferré, Barbara, Jean Ferrat, Leni Escudero et Claude Nougaro. On lisait Harakiri. On ne se sentait rien de commun avec les yéyés qui disaient « Hitler connaît pas ». Et leurs idoles plus jeunes que nous, filles à couette et à chansons pour corps de récréation, garçons rugissants se roulant par terre sur la scène. On avait l'impression qu'ils ne nous rattraperaient jamais. Auprès d'eux, nous étions vieux. Mais nous n'étions pas adultes. La vie sexuelle restait clandestine et rudimentaire, hantée par l'accident. Les filles s'informaient dans des livres. Elles conservaient la honte des mères vis-à-vis du sexe. Il y avait toujours des mots pour les hommes et pour les femmes. Elles ne disaient ni jouir, ni queue, ni rien. Répugnaient à nommer les organes sauf d'une voix détimbrée, spéciale. Vagin, pénis. Les plus hardis osaient se rendre discrètement chez une conseillère du planning familial, un organisme clandestin. Se faisaient prescrire un diaphragme de caoutchouc qu'elles peinaient à s'insérer. Faute d'avoir eu peur à temps dans la pinède ou sur le sable de la Costa Brava, le temps s'arrêtait devant un fond de culotte toujours blanc depuis des jours. Il fallait faire passer, d'une façon, en Suisse pour les riches, ou d'une autre, dans la cuisine d'une femme inconnue sans spécialité, sortant une sonde bouillie d'un faitou. Avoir lu Simone de Beauvoir ne servait à rien qu'à vérifier le malheur d'avoir un utérus. Les filles continuaient donc de prendre leur température, comme des malades, de calculer les périodes à risque, 3 semaines sur 4. Elles vivaient dans 2 temps différents, celui de tout le monde, des exposés à faire, des vacances, et celui, capricieux, menaçant, toujours susceptible de s'arrêter, le temps mortel de leur sang. Dans les déjeuners du dimanche, au milieu des années 60, quand les parents profitaient de la présence de l'étudiant rentré le week-end faire laver son linge pour inviter des membres de la famille et des amis, la tablée discutait de l'apparition d'un supermarché et de la construction d'une piscine municipale, des 4L et des amis 6. Ceux qui avaient acheté une télévision discutaient du physique des ministres et des speakerines. parlaient des vedettes qu'ils voyaient à l'écran comme s'il s'agissait de voisins de palier. Ils évoquaient l'an 2000, calculaient leur probabilité d'être encore vivants, l'âge qu'ils auraient. Ils s'amusaient à imaginer la vie à la fin du siècle, les repas remplacés par une pilule, des robots qui feraient tout, des maisons dans la lune. Ils s'arrêtaient vite, tout le monde se fichant de savoir comment on vivrait dans 40 ans. Juste être en vie. À nous, les grands dimanches d'après-guerre, Fleurs de Paris et le petit vin blanc, semblaient appartenir à un temps révolu, celui de l'enfance, à propos duquel on avait envie de rien entendre, et si un oncle essayait de le raviver...
Te souviens-tu quand je t'ai appris à monter à bicyclette ?
On le trouvait vieux. Dans la rumeur des voix, des mots et expressions entendus depuis que nous étions au monde, mais qui ne nous venaient plus spontanément, on se sentait flotter dans des images indiscernables d'autres dimanches, plongeant jusqu'à ce temps dont nous entendions les récits en revenant au dessert, essoufflés d'avoir trop joué, avant d'écouter des refrains que personne ne se souciait plus de reprendre aujourd'hui.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses
C'était
ses astuces, ses ruses de
Les années, de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Quatrième émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin et les voix de Lucienne Troca, Hervé Colombel. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années, de Annie Ernaux, est publiée aux éditions Gallimard.